100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Inflexible malgré les critiques internationales, le Danemark doit donc adopter aujourd'hui sa vaste réforme controversée du droit d'asile qui prévoit la confiscation de l'argent et des biens supérieurs à 1 340 €, exception faite des alliances, l'allongement du délai à 3 ans pour demander le regroupement familial et des permis de résidence raccourcis pour tous ceux qui auront obtenu le statut de réfugié. 21 000 réfugiés ont fait des demandes d'asile en 2015 dans ce pays de 4,5 millions d'habitants. Les nouveaux arrivants s'inquiètent. C'est le cas d'une jeune Syrienne de 20 ans, Marie-Grette Slima. Notre envoyée spéciale Anastasia Becchio l'a rencontrée dans un centre d'accueil au sud de Copenhague.
J'ai peur. Nous sommes venus ici parce que nous aimons le Danemark et nous voulons rester ici. C'est un beau pays. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On a peur qu'ils ne nous laissent pas rester ici. On est perdus. Je viens de Damas, en Syrie. Pour venir ici, j'ai dépensé tout mon argent, 3 000 $, pour passer la Turquie. J'ai 3 de mes frères qui vivent ici depuis quelques années, au Danemark.
Le parti libéral au pouvoir, soutenu par le parti populaire danois anti-immigration, n'a pas de mal à faire passer ce texte. Même les sociaux-démocrates ne s'y opposent pas. Mais dans la société civile, on s'inquiète. C'est le cas de Morten Gohl, qui dirige le Trampoline House, une maison communautaire qui accueille les demandeurs d'asile dans la journée. Il a expliqué à Anastasia Becchio pourquoi il trouvait ce projet de loi honteux.
Le gouvernement danois utilise ça comme un symbole pour effrayer les gens. C'est une initiative concertée pour dissuader les réfugiés de venir. C'est vraiment épouvantable parce qu'on ne parle plus du tout de protéger cette population, on ne parle que des moyens de les empêcher d'entrer sur le territoire. Le Danemark fait partie de l'Union européenne, c'est honteux que la nation danoise refuse de porter une part du fardeau. C'est le signe que les politiciens n'ont aucune vision, aucun projet cohérent pour résoudre cette crise. Bien sûr qu'il y a des problèmes d'intégration dans la société, c'était pour ces nouveaux venus. Mais la solution n'est pas d'interdire les étrangers.
Et le texte est aussi dénoncé par de nombreuses organisations internationales dans la mesure où il ne respecte pas la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant. Une vision à long terme, c'est bien celle que nous impose la démographie. Le comptage des naissances, mais aussi celui des migrants, dessine les contours de la société de demain. Selon le dernier bilan de l'Institut national de la statistique, la France compte désormais 66,6 millions d'habitants. Le pays qui a connu un pic de surmortalité l'an dernier est aussi celui où le taux de natalité est le meilleur. Pour en parler et comparer ces chiffres avec ceux de nos voisins, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Frédéric.
Ces derniers chiffres confirme-t-il que la France reste la championne du dynamisme démographique en Europe?
Depuis 2010, le nombre de naissances a tendance à se ralentir légèrement en France. Et par rapport à son pic de 1971, il est même en baisse de 13%. Pourtant, la situation démographique de la France reste l'une des meilleures en Europe, avec un taux de fécondité de 1,96, équivalent à celui de l'Irlande et un peu meilleur que ceux de la Suède ou du Royaume-Uni. On sait en revanche que depuis 25 ans et surtout depuis 15 ans, un très grand nombre de pays d'Europe ont un taux de fécondité n'assurant pas ou à peine le renouvellement naturel de leur population. Il s'agit notamment de l'Allemagne, des pays du sud de l'Europe et de la plupart des pays de l'Est européen. Si l'on prend les dernières statistiques disponibles au plan européen, celles d'Eurostat pour l'année 2014, on constate bien que la France est le pays où le solde naturel de la population, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et de décès, est le plus élevé, 265 000 contre 206 000 au Royaume-Uni. En 2014, la France était à l'origine de 40% de la croissance naturelle de la population des 28 pays de l'Union européenne.
Donc la population française est celle qui connaît la plus forte augmentation.
Je vais peut-être vous surprendre, Frédéric, la réponse est non. Car on oublie trop souvent que les variations de population dépendent de deux facteurs. Le solde naturel, comme on l'a vu, mais aussi le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les immigrants qui viennent s'installer régulièrement dans un pays et ceux qui le quittent pour s'installer dans un autre pays. Si l'on tient compte de ces deux facteurs et que l'on regarde donc l'accroissement effectif de la population, le paysage est cette fois complètement différent. En 2014, la population du Royaume-Uni s'est accrue de 416 000 habitants et celle de l'Allemagne de 407 000, alors que la population française n'a augmenté que de 296 000 personnes.
Et la différence, Daniel, c'est donc l'immigration ?
Tout à fait, et de manière très spectaculaire pour l'Allemagne. En 2014, et le chiffre promet d'être encore plus élevé en 2015, le nombre d'immigrants installés outre-Rhin s'est accru de 580 000 personnes contre 210 000 au Royaume-Uni et 109 000 en Italie. Selon Eurostat, ce chiffre n'a été que de 32 000 en France, reléguant l'Hexagone à la 9e place des pays d'accueil, derrière la Belgique et le Danemark.
Et l'afflux assez récent de réfugiés ne brouille-t-il pas les cartes.
C'est vrai, cela joue beaucoup depuis 3 ou 4 ans. Mais si l'on prend l'accroissement net des populations depuis 10 ans, sur la période donc 2006-2014, on constate que le Royaume-Uni se place nettement devant la France, avec 5 millions d'habitants supplémentaires contre 3,2 millions en France. Et que l'Italie ou l'Espagne ne sont pas si loin, avec des hausses de population de 2,7 et 2,4 millions. L'Allemagne, en revanche, voit son renouvellement naturel tellement décliné que sa population totale a décru de près de 1,3 million en 10 ans. Elle reste néanmoins, et de loin, le pays le plus peuplé d'Europe, avec 81,2 millions d'habitants à la fin 2014.
Et quels sont les pays où la décroissance de la population est la plus forte ?
Le pays le plus touché en 2014 est la Grèce, qui a perdu 114 000 habitants, soit 1% de sa population en une seule année. Le Portugal a perdu 53 000 habitants et l'Espagne 73 000 du fait d'une véritable hémorragie migratoire de plus de 100 000 personnes. Et puis il y a le cas dramatique de la Roumanie. Ce pays de 20 millions d'habitants a vu sa population diminuer de 86 000 personnes en 2014 et surtout de 474 000 en 10 ans, soit une baisse de 8% de ses habitants. Tous ces pays, on le sait, ont été durement touchés par la crise depuis 5 voire 7 ans.
Et en conclusion, la situation démographique de la France, Daniel, reste-t-elle favorable ?
Eh bien, elle est très favorable sur le plan de la démographie naturelle, on l'a vu. En revanche, si l'on se focalise sur l'impact économique de la démographie globale, c'est beaucoup plus mitigé. Contrairement à ce que l'on entend dire souvent, l'Allemagne, par sa politique d'accueil, est en train de combler rapidement son handicap démographique naturel. La France, qui a accueilli 2,5% des immigrés européens en 2014, contre 47% pour l'Allemagne et 17% pour le Royaume-Uni, devrait se soucier d'un rééquilibrage.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric. Hey Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Hey Mr. Policeman, why you wanna holler at me?
Niveau d'alerte terroriste sévère, estiment désormais les autorités britanniques, et les attentats de novembre dernier en France ont encore accéléré les choses. Le Premier ministre David Cameron a demandé un rapport sur le port d'armes à feu par la police, qui reste exceptionnel outre-Manche. Seuls 2000 policiers sur 30 000 sont armés à Londres. Cette longue tradition du bobby britannique non armé va-t-elle changer ? En tout cas, elle évolue déjà. C'est le reportage à Londres de Marie Billon.
Dans les gares de Londres, comme ici à Saint-Pancras, on voit plus de policiers armés que d'habitude. Ils patrouillent deux par deux, un fusil semi-automatique à l'épaule, en bandoulière. En tout, il n'y a pourtant que 2000 policiers armés dans la capitale. Mais mi-janvier, le chef de la police métropolitaine, Bernard Hogan Howe, a décidé de créer 600 postes supplémentaires de policiers armés.
Directly after the attacks on the Friday.
Immédiatement après les attaques du 13 novembre à Paris, j'ai augmenté d'environ un tiers le nombre de patrouilles armées qui sillonnent Londres. Deuxième changement, maintenant, nous allons avoir encore plus de policiers armés. En une heure, nous serons donc capables de rassembler 300 à 400 officiers pour faire face à une attaque du même genre. Malgré cela, la police métropolitaine, comme toute la police britannique, reste une force non armée.
Que les Britanniques se rassurent, selon le chef de la police de Londres, le bobby britannique traditionnel n'est pas mort. 93% des agents de la capitale restent sans arme à feu. Ils n'ont qu'une matraque et une sorte de bombe lacrymogène. C'est quelque chose auquel tiennent beaucoup de Britanniques.
Je trouve que ça fait peur de voir des policiers armés. Ça me rend anxieuse. Maintenant, c'est facile d'aller parler à un agent et juste les voir là, je me sens en sécurité.
Regardez aux États-Unis, les gens se font tirer dessus tout le temps. J'ai lu que les policiers américains ont tué plus de gens en quelques mois qu'en 95 ans ici. Donc les gens armés, ça n'est pas une bonne idée. Pour l'instant, c'est facile d'aller parler à un policier. Ça le serait moins s'ils étaient armés. C'est déjà plus intimidant quand ils ont juste un taser.
450 officiers ont un taser à Londres. C'est cette arme qui a permis aux policiers de neutraliser l'agresseur de la station de métro de Leytonstone, à l'est de Londres, début décembre. Un homme de 29 ans a blessé deux personnes au couteau en criant « c'est pour la Syrie ». Pour Anna Sergi de la University of West London, le taser est peut-être un moyen de composer avec les désirs des citoyens britanniques et les nécessités du maintien de l'ordre.
Right now, the moment is...
En ce moment, la question est, devons-nous cimenter la relation qui lie policiers et citoyens, garder l'officier comme médiateur entre les individus et l'État, ou devrions-nous reconnaître que les temps ont changé, que le travail de la police est devenu plus compliqué et qu'on ne peut pas se contenter de faire plaisir aux Britanniques? Je crois que nous nous dirigeons vers une police qui s'appuie plus sur la légalité que sur le consentement.
Pour certains londoniens, c'est la chose à faire. Le bobby armé, c'est le futur. Alors c'est aux Britanniques de s'habituer.
On a besoin de plus d'agents armés. Pas tous, bien sûr, mais aujourd'hui, la menace a tellement évolué avec le terrorisme. Ça sert de moyen de dissuasion. Et puis, on commence à être habitué aux officiers armés quand on les voit dans les gares.
Quelle marche le président de la Fédération de la police métropolitaine, une organisation qui représente 30 000 agents, estime lui aussi qu'il faut s'adapter sans renier l'éthique policière britannique.
Personnellement, je souhaite ne jamais voir mes collègues obligés de porter une arme à feu, même si malheureusement on doit être de plus en plus à être armé pour faire face aux nouveaux enjeux. Mais il faut se rappeler que si le bobby dans la rue a un souci, il peut faire venir un collègue armé en 5 à 6 minutes. Les officiers de la brigade SO19 sont en permanence dans les rues, dans leurs voitures blindées. Dans chacune, il y a 3 officiers entièrement armés, prêts à agir.
Ken Marsh est satisfait de l'annonce de Bernard Hogan Howe. Désormais, en prenant en compte les 3 permanences des forces de police, il y a près de 900 officiers armés dans les rues de Londres à n'importe quel moment de la journée. Tous restent des volontaires, la plupart sont des anciens militaires. Les candidats ne manquent pas, mais ils sont sélectionnés, formés et suivis avec soin. Le but est d'éviter les scandales, comme la mort de Mark Duggan en 2011, qui a provoqué les émeutes de Londres. Les agents ont tiré sur l'homme de 29 ans qui aurait été armé d'un pistolet alors qu'il s'enfuyait. À chaque fois qu'un policier fait usage de son arme, l'agent doit prouver qu'il pensait honnêtement que sa vie et celle de ses collègues étaient en danger. Pour Ken Marsh, la police s'adapte doucement, mais elle peut se révolutionner si besoin.
Si les circonstances changent, nous devrons changer aussi. On ne peut pas rester le gentil bobby envers et contre tout. La réponse doit être proportionnelle. Si une suite d'atrocités se produit, si on n'arrive pas à répondre efficacement à ce qui se passe, il faudra revoir tout ça.
Pour l'instant, en tout cas, le bobby sillonne toujours les rues de Londres, à pied et sans arme à feu pour la plupart. La capitale a eu la chance d'être épargnée par les restrictions budgétaires. Elle n'a pas eu à réduire le nombre de patrouilles, contrairement à plusieurs villes de province.
C'est un modèle du genre. Le centre d'hébergement pour les malades d'Alzheimer d'Oreweg aux Pays-Bas ressemble à un village où les malades peuvent circuler librement et où tout est conçu pour stimuler leur mémoire défaillante. Au reportage à Oreweg, à une demi-heure d'Amsterdam, signé Nicolas Feldman.
Ils sont devenus rares ces moments où Ada parvient à capter le regard de son mari. Cela fait 10 ans que les souvenirs de Ben s'effritent chaque jour un peu plus.
Mon mari, malheureusement, il a la maladie Alzheimer. Je crois qu'il est content quand il me voit, mais je ne crois pas qu'il sait que je suis sa femme. Et je crois maintenant il ne me connaît plus.
5 fois par semaine, Ada passe les portes automatiques de la maison de retraite d'Orveg. Elle s'engage dans les rues du village. Si sa mémoire ne lui faisait pas défaut, son mari Ben les connaîtrait certainement par cœur. Il y habite depuis 4 ans.
Il se promène toute la journée. On sent qu'on est libre et on a de l'air frais. Et c'est bien pour eux.
De l'air frais, c'est justement l'un des arguments des fondateurs du village qui ont voulu recréer un lieu de vie le plus normal possible. La maison de retraite est ouverte à tout le monde. Les 152 résidents ont à leur disposition une supérette, un café, un restaurant, une salle de spectacle et même un salon de coiffure. La coiffeuse, c'est Linda, la quarantaine. Aujourd'hui, elle s'occupe de Radha, de 30 ans, son aînée.
Là, je lui fais des boucles. Cette femme est allée toute sa vie chez le coiffeur, une fois par semaine. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est donc très important qu'elle puisse poursuivre ses habitudes.
À côté de Radha, 2 autres vieilles dames enfoncées dans leur fauteuil regardent d'un air absent les allées et venues. Linda veut croire que son local est plus qu'un salon de coiffure.
Elles voient le même visage, elles me reconnaissent. Certaines viennent chaque semaine. C'est aussi un endroit où on peut venir juste boire un café, comme cette dame-là. Toute la matinée, elle reste assise là. Ça aussi, c'est possible et c'est bien pour eux.
It's good for the people.
Et d'après les médecins sur place, avec le temps, la consommation de somnifères et d'anxiolytiques baisserait. Brenda est infirmière, elle est passée dans plusieurs maisons de retraite avant de rejoindre celle d'Orveg il y a 5 ans.
Dans certains endroits, les résidents vous disent « Je me sens comme un prisonnier, je voudrais partir, je n'ai rien le droit de faire ici ». Mais chez nous, ils ne sont pas prisonniers. Je n'ai pas à les limiter à un environnement. Ils sont libres de se déplacer. Cela fait la différence parce que quand ils sont frustrés, quand ils veulent sortir, se balader, eh bien, ils peuvent le faire. Et cela agit sur leur humeur. Ils se sentent mieux. On voit bien qu'ils sont plus heureux. Bien sûr, vous avez les mêmes symptômes de la maladie. Il y a de l'agitation, de la peur, de la confusion. Mais notre approche de la démence est différente et cela aide à augmenter la qualité de la vie, à diminuer les sentiments de confusion et tous les autres symptômes.
Ce travail sur la mémoire continue dans les habitats à taille humaine. Les résidents sont en colocation dans l'une des 23 maisons du village. Anna est responsable des soins dans l'une d'elles.
Là, il y a 6 chambres. On a 6 femmes et un homme. Oui, il est très heureux. Là aussi, vous voyez, il y a une chambre double. Ces 2 femmes ont voulu la partager car elles se sentent plus en sécurité quand elles sont toutes les deux.
Chaque maison est organisée et décorée en fonction du profil de ses occupants. On trouve ainsi par exemple celle des chrétiens, celle au style plus bourgeois ou encore une autre qui se calque sur le mode de vie néerlandais le plus traditionnel. Une façon de stimuler sans cesse la mémoire défaillante des pensionnaires. Eloy Van Hau est l'un des gestionnaires.
C'est votre nouvelle maison, donc vous vivez dans une atmosphère que vous partagez avec des résidents avec qui vous avez des choses en commun. Donc vous vous sentez plus chez vous. Par exemple, les musiques du folklore traditionnel néerlandais sont très importantes pour certains. Ils les reconnaissent, peuvent chanter ensemble, ils s'en rappellent et donc ils sont heureux. Pour d'autres, ce sera plus la musique classique. C'est comme ça que ça marche pour les personnes atteintes de démence sénile. Ça leur rappelle leur jeunesse, quand ils avaient 25 ou 35 ans. Donc la musique est importante pour tout le monde, mais pour les personnes atteintes de démence encore plus, parce qu'elles peuvent s'en rappeler, donc elles se sentent plus à l'aise et forcément plus heureuses.
Si la construction d'un tel projet chiffré à plus de 25 millions d'euros est plus élevée qu'ailleurs, les résidents paient en revanche le même prix que dans les autres établissements du pays, 5 000 euros par mois, dont une partie est remboursée par la sécurité sociale. Aujourd'hui, la maison d'Orveg est victime de son succès, la liste d'attente s'est rallongée à près d'un an et il n'est plus rare d'y voir se promener au milieu des résidents des professionnels du secteur venus de toute l'Europe. En France, un village Alzheimer similaire doit voir le jour dans le département des Landes l'année prochaine.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité. Pour Accent d'Europe, on se retrouve dès demain.
Il disait, si votre photo n'est pas bonne,